Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne podcast Partager pour grandir sur la thématique aujourd'hui des émotions et des croyances. Alors avant de commencer, j'avais quand même envie de réexpliquer pourquoi je fais ces podcasts, pourquoi j'ai l'intention de mettre en place ces émissions, ces enregistrements. Eh bien, parce que en tant que thérapeute, thérapeute donc familiale auprès des enfants, des femmes, mais avec les outils donc d'art-thérapie, de danse-thérapie et de yoga-thérapie, j'avais envie de continuer en fait mon accompagnement d'une autre manière, d'amener des éléments de compréhension, peut-être amener des outils. De mise en place, de mise en pratique pour l'ensemble des personnes qui en auront besoin à un instant T, vu que je ne crois absolument pas au hasard. Je suis convaincue que quand on tombe sur quelque chose, c'est parce que c'est juste et que c'est à ce moment-là où on doit tomber dessus, parce que ça vient en résonance avec ce que l'on vit, avec ce qu'on traverse. Donc je l'espère en tout cas que ces podcasts vous seront utiles et que bien évidemment encore une fois vous en ferez ce que vous avez envie d'en faire, c'est-à-dire si ça résonne en vous et que ça convienne au mieux à ce que vous vivez à l'instant présent. Voilà, et comme je l'ai évoqué aussi dans mon résumé pour présenter en fait mon projet de podcast, c'est bien évidemment que les commentaires sont les bienvenus à partir du moment où les commentaires restent non jugeants, bienveillants, avec une envie de donner du sens, d'amener des compréhensions, de la compréhension pour le plus grand nombre. Et peut-être que vous aurez d'autres éléments à fournir dans vos expériences personnelles. C'est ça qui est riche justement. Donc, je vous invite grandement à le faire si vous le souhaitez. Voilà, chose étant dite, je vais pouvoir donc commencer sur ce sujet, sur ces sujets que sont les émotions et les croyances. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de ces thématiques-là? Parce que en tant qu'art-thérapeute, je suis très souvent, pratiquement tout le temps, confrontée en fait à accompagner les personnes à libérer leurs émotions et non pas à les gérer, mais à les libérer. Et puis parce que moi aussi, je suis un être humain qui a également des émotions et des croyances qui peuvent être porteuses, mais qui parfois peuvent être aussi limitantes. Donc je choisirais les termes de limitant et de porteur et non pas de positif et de négatif. Parce qu'une émotion n'est jamais négative, elle est toujours là pour nous montrer un chemin, pour nous montrer que quelque chose en nous a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être transformé. Donc si nous venions à en parler sur les émotions, elles concerneront plutôt, comme le mot l'indique, le corps émotionnel et les croyances, elles, concerneront plutôt le corps mental. Alors pourquoi j'ai voulu parler encore une fois de ces sujets? Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, parce que je suis très souvent en lien avec l'émotionnel des gens, mais aussi le mien, hein, bien sûr, mais aussi parce que je me suis rendu compte que certaines fois, c'est ce qui nous empêchait aussi d'avancer. Quand ces fameuses émotions ou croyances sont limitantes. Donc l'idée, c'est d'amener aussi les personnes à se libérer de leurs émotions et de leurs croyances limitantes. Alors, avant d'énumérer les différentes émotions principales, hein, ou primaires, comme on peut dire, je voulais revenir sur le terme d'émotion. Qu'est-ce qu'une émotion? Qu'est-ce qu'une émotion? Alors, une émotion, ça vient du terme emovere, qui veut dire mettre en mouvement. C'est-à-dire que le mouvement, le mouvement de vie, le mouvement du corps, ça veut dire que l'émotion, elle, vient faire réagir le corps. Et on va voir avec l'énumération des différentes émotions que effectivement elles viennent se connecter à notre corps, elles viennent réagir. Donc une émotion, en fait, elle arrive quand il y a un besoin en nous qui n'est pas comblé, qui n'est pas assouvi. Et un élément déclencheur va en fait faire ressurgir tout cela. Un événement déclencheur, souvent extérieur à nous. Hein. Donc les émotions principales, il en existe plusieurs, bien sûr la peur, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût et la surprise. Et on a également des émotions dites secondaires qui, elles, sont souvent en dépendance, je ne sais pas si le terme est très bien employé, mais elles sont souvent en corrélation, on va dire, avec les émotions principales. Un exemple, l'émotion de la honte, avoir honte, elle découle souvent de la colère et de la tristesse. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'elles sont secondaires. Alors avant de commencer encore une fois à énoncer ces émotions, il est important de dire qu'une émotion, si elle n'est pas vécue, si elle n'est pas vécue pleinement en fait, si elle est jugée, si elle est niée, si elle est refoulée, si elle est repoussée, elle va ne faire que s'accentuer en fait, et elle va se déplacer dans un autre endroit. Donc souvent, ça va être au niveau corporel, on peut avoir des douleurs bien sûr, mais ça peut être aussi, on va reporter aussi toutes ces émotions sur les autres. Donc ça va aussi avoir une conséquence aussi sur nos relations avec les autres. Donc une émotion, en fait, ce qui est important, c'est de la faire émerger, c'est-à-dire de la vivre, de la vivre pleinement. On est en colère, on a le droit d'être en colère. On s'autorise à l'être. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est OK. On l'accueille, donc on accueille qu'on est en colère. OK, je suis en colère. Et ensuite, on va la transformer, on va la libérer. OK, je suis en colère, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de garder ça? Est-ce que j'ai besoin de maintenir ça en moi? Puisque ça me fait du mal, en fait. Dans le cas où une émotion soit limitante, on est bien d'accord. Donc les émotions, on a... Alors tout d'abord, la peur. Donc tout le monde connaît la peur. Elle arrive quand il y a un élément extérieur qui peut nous mettre en danger, par exemple. Donc le besoin qui a besoin justement d'être assouvi, d'être comblé, il s'agit du besoin de protection. Souvent, quand on a peur, c'est qu'on se sent en insécurité. Alors, on se sent en insécurité, donc ça peut être effectivement une peur qui est réelle. C'est-à-dire pour notre survie, pour notre vie même. Notre survie, notre vie, c'est-à-dire qu'il y a un vrai danger. Je ne sais pas, moi, par exemple, vous mettez le pied sur un serpent, ou vous voyez plutôt un serpent, vous n'allez pas mettre votre pied dessus, vous voyez. Et il y a des peurs qui sont dites irraisonnées. Et là, on est dans ces peurs qui proviennent de croyances erronées. C'est-à-dire... avoir peur de croire en quelque chose ou la peur, je ne sais pas moi, de perdre la vie sur un événement particulier alors qu'on ne va pas perdre notre vie en faisant ça. La peur d'avoir l'air ridicule, la peur de l'échec, tout ça fait que ça provient de nos croyances, de croire qu'on n'est pas capable, je ne sais plus ce que je disais par rapport à la peur avant, mais de croire en des choses qui ne sont pas réelles en fait. Voilà. Voilà, la peur de croire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas capable, qu'on n'arrive à rien, etc., etc., etc. Alors, on parlait également des réactions dans le corps, hein, parce qu'une émotion, elle va se déclencher, on l'a dit, hein, elle se met en mouvement, donc elle va se déclencher dans le corps. Hein, et quand la peur nous submerge, ben, on peut avoir le cœur qui bat fort, les poils qui se dressent, une respiration difficile aussi, des mains moites ou pieds moites, l'estomac serré. Voilà tout. Tout ce qui peut arriver effectivement lors d'une sensation de peur. Si on parle de la colère maintenant, la colère, elle va nous parler qu'il y a un besoin en nous de s'exprimer, de s'affirmer, d'être respecté, d'être écouté. Elle peut donc se retrouver aussi dans des besoins de changement, quand ça n'est pas comblé, besoin comment, de rectifier, de mettre des limites, de dire sa vérité, le besoin de montrer sa force, de se sentir donc respecté, on en a parlé déjà avant, d'être regardé, d'être compris, etc., etc., etc. Donc comment la colère peut concrètement être présente dans notre corps quand il y a le cœur qui s'accélère, une augmentation de la température de la peau, la rougeur aussi de la peau. Hein. Souvent les personnes en colère, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, elles prennent un pic de rouge. Hein, vous voyez, elles deviennent toutes rouges. La transpiration, bien sûr. On peut serrer les mâchoires, les poings, élever la voix également. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi bah, comment est-ce que l'on peut vider en fait ce trop-plein de colère qui n'est pas dans un endroit qui est à l'intérieur de nous, qui n'est pas adapté, hein, de vider en fait cette énergie de colère. On peut évidemment utiliser l'art, hein, donc le dessin, l'écriture, la danse, tout ce qui est créatif pour vider, et c'est d'ailleurs mon travail en tant qu'art-thérapeute. Ou alors on peut aussi, faire de l'art, hein, c'est taper dans un oreiller, dans un ballon, courir, souffler très fort, etc., etc. Hein, donc il y a plusieurs techniques en fait qui existent pour effectivement évacuer donc le trop-plein de colère. Parce que le risque, c'est quoi? Qu'une colère, et on le voit tous, si la colère n'est pas vidée, soit on va la reporter sur les autres, donc avec de la violence, avec des insultes, avec des violences physiques. On le voit d'ailleurs très bien quand on est en voiture. Hein, les gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit très souvent des violences quand on est au volant. Hein, juste parce que quelqu'un nous a un peu trop collé ou ne démarre pas suffisamment vite au feu vert, etc., etc. Ou alors, il y a également, et ce que j'ai pu remarquer chez des enfants et adolescents particulièrement, que si la colère n'est pas libérée, on peut aussi la garder en soi et donc se faire du mal à soi-même. Et donc c'est ce que je vous disais avec des adolescents, j'ai vu des ados se scarifier. Ils voulaient se faire mal et garder en fait cette émotion hein, qu'ils ont du mal à libérer et qui se renvoie à eux-mêmes. Donc il est vraiment essentiel, primordial, nécessaire que l'émotion de la colère soit libérée. Ensuite, j'avais envie de parler aussi de la tristesse, puisque c'est une des grandes émotions aussi principales qui, elle, va exprimer un besoin d'être réconfortée. Hein. Donc, souvent, hein, l'émotion de la peur, de la tristesse, pardon, excusez-moi, ben, c'est quand il y a un deuil, quand il y a la perte de quelqu'un, de quelque chose. Voilà, on a besoin donc d'être cajolé, d'être réconforté. Et il y a différentes attitudes qui peuvent arriver aussi. L'attitude adaptée serait de ressentir des larmes, hein, de pleurer la perte, de se permettre en fait de vivre cette émotion pleinement. Et celle qui serait moins adaptée, c'est refuser d'être triste et donc de se mettre en colère contre les autres. Ce qui est intéressant de dire, et ce que je remarque très souvent aussi en art-thérapie, c'est que la colère, elle est vraiment... elle peut être jugée. Donc certaines fois, au lieu d'évacuer sa colère, on va être triste. Et inversement, quand la tristesse a été énormément jugée dans une famille, dans une culture, eh bien, on va la transmuter dans une autre émotion. À savoir, là, dans ce cas-là, plutôt que d'être triste, on va être en colère. Donc, on ne vit pas notre émotion et l'émotion qui doit être vécue pleinement. Et enfin, la joie. Donc, la joie, je ne parlerai pas du dégoût et de la surprise. Je reste vraiment sur les quatre premières émotions principales. Et la joie, donc, c'est bien sûr le besoin d'être heureux. Alors, en sachant qu'il peut y avoir aussi des excès de joie quand on est vraiment dans un excès, c'est-à-dire... où vraiment là on est limite dans l'exaltation. Donc des fois on peut aussi, je l'ai remarqué dans certains accompagnements, être exalté c'est bien, mais ça ne doit pas nous faire fuir de notre réalité non plus. D'être tout le temps en joie, une personne qui est tout le temps en joie, ça peut aussi cacher des choses. Peut-être qu'elle ne s'autorise pas justement à vivre pleinement les autres émotions. Et donc, elle les remplace par l'émotion de la joie. Voilà, donc je ne sais pas si déjà cette première partie sur les émotions vous aura parlé. Je vous invite grandement à vous remémorer quand vous avez pu vivre une émotion de peur, de colère, de tristesse et de joie, de voir comment vous avez... qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez réagi et quels ont été aussi vos symptômes physiques. Est-ce qu'il y a eu des événements au niveau physique qui sont apparus? Et ce qui est important aussi, c'est comment vous avez fait pour libérer vos émotions. Donc si jamais vous entendez ce podcast, n'hésitez pas à répondre à ces questions qui sont très intéressantes et qui peuvent aider aussi les autres à vivre pleinement leurs émotions. Merci à vous. Donc pour continuer, je vais vous parler des croyances. Donc les croyances, elles proviennent, comme je l'ai dit précédemment, du corps mental. Donc en tant qu'art thérapeute, je travaille aussi sur les croyances. Et donc une croyance, ça peut être « je ne suis pas capable »,« je n'y arriverai pas »,« je suis moche », etc., etc. Je pense que tout le monde, quel qu'il soit, a déjà eu des croyances limitantes. Quand je dis limitantes, c'est qu'elles nous limitent dans notre action, elles nous limitent dans notre vie. Et elles vont avoir une influence sur notre comportement, notre façon aussi de communiquer avec les autres. Donc c'est intéressant. Donc on a ce qu'on appelle des croyances aidantes, dont par exemple je suis capable d'y arriver, et les croyances limitantes, c'est « je ne suis pas capable d'être chef d'entreprise, d'être un bon élève, d'être un bon compagnon, etc. etc. » En fait, il faut savoir que pourquoi je vous parle des croyances et des émotions, parce qu'elles sont intimement liées. Les croyances, elles sont liées aux émotions. Car si on pense qu'on n'est pas capable, ça risque sans doute, peut-être, de nous amener de la tristesse ou de la colère. Donc elles sont intimement liées. Nos croyances vont nous amener des émotions. En PNL, donc en programmation neurolinguistique, notre cerveau va tout faire pour valider notre croyance. Donc c'est-à-dire qu'il va valider que, donc dans le cas d'une croyance aidante, je suis capable d'y arriver. Et également, malheureusement, pas forcément parce que ça peut nous aider aussi à dépasser des choses, d'avoir des croyances limitantes. Quand je dis malheureusement, il ne faut pas qu'elles viennent nous plomber. faut pas qu'elles viennent justement nous stopper dans notre action, ce qui est souvent le cas malheureusement, surtout quand on croit qu'on n'est pas capable d'y arriver. Souvent, on ne va pas être capable d'y arriver. Et en plus, souvent, tous les événements vont nous montrer qu'on n'est pas capable d'y arriver. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une personne se dit « j'oublie tout le temps mes clés ». J'oublie tout le temps mes clés. À chaque fois, je n'ai pas de clés. Le cerveau, lui, va tout faire pour le valider, ça. Donc, c'est-à-dire que vous allez passer devant les clés, mais en fait, vous n'allez jamais les voir. Vous voyez ? Parce que votre cerveau va effacer de votre mémoire les clés. Il va dire « je ne les ai pas vues ». Donc, ce qui est intéressant dans ce que je viens de vous dire, c'est que si notre cerveau est en capacité de valider une croyance limitante, il est aussi en capacité de valider une croyance aidante. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt positif. Donc, ça veut dire que si vous pensez que vous êtes capable, vous serez capable. Et en fait, il va y avoir comme une énergie dans votre corps, quelque chose qui va vous impulser, voyez. Comme d'autres, je ne sais pas moi, je suis heureuse, par exemple. Si vous pensez que moi, je suis heureuse, si je suis malheureuse, si je suis heureuse, ça va vous emmener un élan, vous voyez. Si vous dites, je suis malheureuse, il m'arrive tout le temps plein de problèmes, j'ai pas de bol, forcément, ça va vous amener encore une série et vous serez mentalement prédisposé à croire et à faire que tous les événements qui vont arriver vont confirmer votre croyance. C'est comme le cas des placebos, hein. Quelqu'un qui va prendre un médicament, qui va penser, en prenant un placebo, mais qui va penser très fortement que c'est un médicament, que ça va lui faire un bien fou, en fait, on l'a déjà vu scientifiquement, des gens qui ont pris des placebos arrivaient à se soigner. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous qui va nous aider à croire en cette croyance, justement, et faire que dans notre vie, dans notre corps, ça résonne aussi. Voilà. Donc, j'avais envie de finir sur ces croyances, sur différentes techniques qui existent également en programmation neurolinguistique. C'est comment relativiser ou déstabiliser une croyance. Bien évidemment, on déstabilise souvent plus une croyance limitante que aidante. La première chose, ça va être d'utiliser le contre-exemple. Je vous donne donc cet exemple. Une personne va vous dire « les personnes qui arrivent en retard sont feignantes ». À chaque fois, de toute façon, elles arrivent en retard, elles sont feignantes. Le contre-exemple serait de dire « tu n'as jamais vu une personne arriver en retard ». Et oui, qui n'a jamais vu une personne arriver en retard ? Et nous-mêmes. Donc, c'est aussi d'aller se regarder. Hein. Le deuxième exemple pour relativiser ou déstabiliser une croyance, ça pourrait être de faire un recadrage de sens ou de contexte. Je m'explique. Exemple, quelqu'un va vous dire « les personnes qui ne disent pas bonjour sont irrespectueuses ». On va remettre ça dans le contexte. Il ne t'est jamais arrivé de ne pas dire bonjour pour ne pas déranger ? C'est intéressant. Je vous laisse voir comment ça résonne en vous. Troisièmement, ça peut être, pour déstabiliser ou relativiser une croyance, d'expliquer que l'on peut préférer plutôt que de voir. Alors ça, c'est hyper intéressant. Parce que je pense on a tous été un moment ou un autre dans ce cas-là. Exemple, on doit toujours aider les autres. Plutôt que de dire « je dois », on va dire « je préfère ». Que se passerait-il si tu ne le faisais pas à chaque fois ? Si tu préfères faire autre chose, en fait. Et enfin, appliquer la croyance à elle-même. C'est-à-dire, exemple, Ne pas être d'accord avec une personne n'est pas lui faire confiance. Ça veut dire qu'on ne lui fait pas confiance. Si je ne suis pas d'accord avec elle, c'est qu'on ne peut pas lui faire confiance. Une autre personne, dire bah, donc là, tu ne me fais pas confiance. Vous voyez? C'est de remettre la croyance à nous-mêmes. Et en fait, ça, tout ça, ça va vraiment permettre eh bien, de prendre du recul par rapport à la croyance, de prendre de la hauteur et de se dire, ah oui, mais attends, là, peut-être que je fais fausse route, peut-être que finalement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, donc j'espère que ces quelques exemples vous auront permis, en tout cas, de relativiser aussi de votre côté sur les éventuelles croyances que vous pourriez avoir. Alors là, même chose, j'aurais envie de vous proposer quel genre de croyances limitantes vous avez, vous, qui revient souvent. Est-ce que vous avez des techniques, justement, peut-être autres que la programmation neurolinguistique? Est-ce que vous avez des techniques pour justement libérer ces croyances limitantes? Et quelles sont aussi, parce que restons quand même sur une note positive, quelles sont les croyances qui vous portent, qui vous élèvent, qui vous nourrissent? Qui vous aident dans votre vie, qui sont porteuses et qui pourraient elles aussi être porteuses pour les autres. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast de Partager pour grandir. Belle journée à vous et à très bientôt.